Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Forte mobilisation des personnels de l'hôpital public aujourd'hui dans toute la France. Près de 10 000 manifestants à Paris, dont de nombreux médecins qui réclament des moyens supplémentaires. Le reportage de Tara Schlegel. Un plan de départ volontaire à Radio France. 299 emplois doivent être supprimés d'ici 2022. Plan dénoncé par les syndicats de Radio France. Nous ferons le point avec Maxime Tellier. Qu'il ferme sa gueule, le général Georges Lain, chargé de piloter la reconstruction de Notre-Dame de Paris, s'en prend violemment à l'architecte de la cathédrale, Philippe Villeneuve. Au cœur de la polémique, la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc à l'identique, reconstruction souhaitée par l'architecte. Nous en parlerons avec notre invitée Marie-Vonne de Saint-Pulgen, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Médecins, infirmiers, aides-soignants, étudiants, mais aussi patients. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital public. Ils étaient 10 000 à Paris selon les organisateurs, 7 500 d'après la police. En région, le plus important rassemblement a eu lieu à Toulouse, avec de 700 à 3 000 manifestants selon les sources. Les personnels hospitaliers en grève réclament de meilleurs salaires et une prime de 300 euros net par mois. Ils demandent aussi la création de 10 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants, ainsi que la réouverture des lits supprimés dans les hôpitaux. À Paris, de nombreux médecins étaient présents dans le cortège. C'est un reportage de Tara Schlegel.
Le professeur Dominique Plantas n'a plus manifesté depuis ses études de médecine. Cancérologue, pédiatre, il est maintenant chef du service d'hémato-oncologie au CHU de Grenoble. En ce moment, il n'a à sa disposition que 12 lits, au lieu des 18 qu'il lui faudrait pour soigner ses petits malades, qui bien souvent se retrouvent envoyés ailleurs.
Si on met l'enfant dans un service de pédiatrie générale, les soins seront faits, mais avec beaucoup plus de difficultés, puisque le calibrage des équipes n'est pas le même.
Ça, ce dont vous me parlez, ça arrive?
Oui, bien sûr, c'est en permanence. Et c'est aggravé en plus pendant les phases épidémiques de l'hiver où les conditions de travail pour les soignants sont épouvantables, avec une peur au ventre pour prendre sa garde, pour savoir quel enfant on va pouvoir. On sait qu'on tous ne requiert pas l'hospitalisation. Néanmoins, dans la masse des consultations, il faut faire le tri et pas envoyer celui qui risque de revenir mort.
Le docteur Florian Vivret, lui, est urgentiste à Nantes. Et la nuit dernière, la situation était proprement inédite.
La nuit du 13 au 14 novembre. Voilà, on discute, on échange. Plus de lits sur l'hôpital de Saint-Nazaire, plus de lits sur l'hôpital de Châteaubriant, plus de lits sur l'hôpital d'Anceny, plus de lits sur l'hôpital de Nantes ce matin.
Plus de lits, ça veut dire?
Ça veut dire que concrètement, tous les lits d'hospitalisation dans les hôpitaux où il y a des services d'urgence n'ont plus de lits pour hospitaliser les patients ce matin. Ah bah, ils attendent aux urgences, c'est ce qu'on appelle les hospitalisations brancards. Et dans les services, mes collègues se demandent quels patients ils peuvent renvoyer à la maison, alors qu'on n'a pas forcément fini les soins. Si le 14 novembre, dans le département de Loire-Atlantique, on n'a plus de lits pour hospitaliser nos patients, l'hiver qui s'annonce va être extrêmement compliqué.
Un constat partagé par beaucoup de médecins venus à Paris manifester. Selon une étude, la moitié des praticiens hospitaliers se disent en burn-out.
Tara Schlegel, merci. En visite dans la Marne, Emmanuel Macron a promis de répondre à la colère et à l'indignation du personnel soignant. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe annoncera des décisions fortes, pour reprendre les termes du président, en clair des moyens financiers supplémentaires pour l'hôpital public. Ces promesses d'Emmanuel Macron ont immédiatement suscité une vive réaction des sénateurs de droite comme de gauche. Le Sénat a écourté ce soir l'examen du budget de la Sécurité sociale, s'estimant court-circuité par le chef de l'État. Les sénateurs ne veulent plus examiner un texte qu'ils jugent obsolète, puisqu'il sera remis en cause par les mesures financières qu'annoncera mercredi Édouard Philippe. La direction de Radio France a révélé aujourd'hui le détail des suppressions de postes prévues d'ici 2022. 299 postes seront supprimés, soit 7% des effectifs de votre radio publique. Pour atteindre cet objectif, la présidente Sybille Veil table sur un plan de départ volontaire qui concernera 236 postes. Reste 63 emplois qui ne seront pas remplacés. Les syndicats de Radio France dénoncent ce plan. Ils y voient une nouvelle casse du service public. Maxime Tellier.
C'est un plan de départ dont on parlait depuis la fin du printemps. Et désormais, c'est du concret. La formation la plus touchée par les suppressions de postes est le chœur de Radio France, qui perdrait un tiers de ses effectifs, d'après ce plan. 30 choristes en moins, mais 17 postes de documentalistes seront aussi supprimés. 25 techniciens supérieurs du son, 16 réalisateurs, notamment pour les fictions sur France Culture. Les flashs sur FIP devraient disparaître et la liste est encore très longue. Ce plan est soutenable. En tout cas, assure la direction qui annonce dans le même temps la création de 76 nouveaux postes, car en dépit des restrictions budgétaires imposées par l'État, 20 millions de baisse de la redevance prévue d'ici 2022, la direction veut investir aussi sur le numérique, la vidéo, les podcasts, le web. Les syndicats de leur côté dénoncent un plan insoutenable qui met en danger la pérennité de Radio France alors que les audiences sont au plus haut et le budget maîtrisé. Un sentiment d'injustice s'installe d'ailleurs, que ne nie pas la direction, mais qui nourrit la colère des syndicats. Ils se retrouvent en intersyndicale demain matin. La présidente Sybille Veil rencontre quant à elle les salariés dans la foulée pour leur exposer ses arguments. Pour la suite, rien n'est décidé. Grève sur un seul jour, perlée ou reconductible. La stratégie reste encore à choisir.
À Maxime Tellier, merci. Faut-il reconstruire la flèche de Notre-Dame de Paris à l'identique? Le général Jean-Louis Georgelin, chargé de piloter la restauration de la cathédrale, a brutalement relancé le débat hier à l'Assemblée. Devant la commission des affaires culturelles, il a remis en place l'architecte en chef de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, partisan d'une reconstruction à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc, tombée dans l'incendie du 15 avril. On écoute Jean-Louis Georgelin.
Nous envisageons de lancer une consultation en 2020 afin que le choix puisse se faire d'ici à la mi-2021. Le fait que l'on fasse une consultation faite ne veut pas dire que l'on ne puisse pas dire « je vais refaire la flèche ». Pas du tout. Quant à l'architecte, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le referai de manière plus heureuse, qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Quelle flèche allez-vous faire? Allez-vous la reconstruire à l'identique, etc. Toutes ces questions trouveront leurs réponses sagement, grâce à nos débats nourris et déjà amorcés, le mouvement venu.
Jean-Louis Georgelin devant les députés à l'Assemblée, invité de ce journal, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, que pensez-vous de ces propos musclés du général Georgelin à l'encontre de l'architecte de Notre-Dame ?
Bon, c'est pas très heureux comme expression et d'ailleurs le ministre de la Culture a condamné ses propos tenus devant l'Assemblée nationale, donc devant la représentation nationale. Et puis par ailleurs, les architectes en chef des monuments historiques, qui sont des maîtres d'œuvre, sont certes des statutairement des fonctionnaires de l'État, mais en ce qui concerne la position sur la restauration, sur les projets de restauration, ils proposent ce projet tout à fait librement. Voilà, ça c'est une première remarque. Maintenant, la question de savoir s'il est opportun de discuter maintenant, de remettre sur la table la question de la flèche, nature de la flèche, sur ce point, on peut dire que le général Georgelin n'a pas tort. C'est pas du tout le sujet à l'ordre du jour. Le sujet à l'ordre du jour, c'est la sécurisation de la cathédrale. Et c'est seulement dans un nombre de mois respectable que cette question du parti de restauration de Notre-Dame de Paris sera présentée, discutée devant les instances compétentes.
Donc pour vous, en l'état actuel des choses, le général Georgelin reste l'homme de la situation pour piloter ce chantier de restauration?
Ah ben, il a été désigné par décret comme préfigurateur d'établissement public, dont personne ne doute qu'il sera le président lorsque ce décret organisant cet établissement public sera publié au journal officiel. Il sera nommé par décret du président de la République, mais personne ne doute du choix du président de la République. Maintenant, ce n'est pas non plus lui qui va décider du parti de restauration de Notre-Dame de Paris. C'est une compétence du ministre de la Culture, après avis de la Commission supérieure des monuments historiques. Ce que va faire l'établissement public, c'est faire une proposition au ministre. Mais par ailleurs, cette proposition ne fera que se prononcer sur une proposition des architectes en chef. Donc, encore une fois, la liberté des architectes en chef est totale.
Mais est-ce que vous comprenez que l'architecte de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, puisse s'exprimer en faveur d'une reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame ?
Hein, ça n'est absolument pas surprenant. Viollet-le-Duc, le créateur du métier d'architecte en chef, par ailleurs, les débats sur la pertinence de Viollet-le-Duc comme architecte restaurateur du patrimoine sont largement derrière nous. Il y a un consensus massif de l'histoire de l'architecture et de l'histoire du patrimoine sur le grand architecte du patrimoine que fut Viollet-le-Duc. Et donc, c'est tout à fait naturel et, je dirais, sans surprise, qu'un architecte en chef soit en faveur de la reconstruction de la Flèche. Ça n'est d'ailleurs pas la seule personne qui a pris cette position. Sauf erreur, c'est aussi celle du clergé de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, j'ai entendu le président de la République, dans un discours adressé au ministère de la Culture pour ses 60 ans, dire que ce débat sur la Flèche était très utile et qu'il fallait surtout pas le clore prématurément.
Et vous, justement, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, en tant qu'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, quelle est votre position sur ce débat ?
Personnellement, je suis, comme beaucoup de gens du patrimoine, plutôt en faveur de la restauration de la Flèche à l'identique parce que on est tout à fait dans les principes de la Charte de Venise et des conventions internationales sur le patrimoine. La cathédrale avec la flèche de Viollet-le-Duc qui a été classée avec cette flèche à la fois parmi les monuments historiques et au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'ensemble des abords et de l'île de la cité. Ces principes disent que on restitue le dernier état cohérent connu quand il est suffisamment documenté. Donc on est tout à fait dans cette circonstance, sachant que en plus la flèche était là il y a 6 mois. Donc ce n'est pas une flèche disparue depuis très longtemps. C'est d'ailleurs paradoxal qu'au même moment, le ministère, l'État soutient, même si la décision n'est pas prise, un projet de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis qui, elle, a disparu depuis très longtemps et qui est sans doute moins documentée que celle de Notre-Dame de Paris.
Et la flèche d'origine de Notre-Dame, ça n'est pas envisageable ?
Non, celle-là, on la connaît très peu. Elle a disparu avant la Révolution, elle n'est pas documentée. Ça, ce serait pour le coup une restitution formellement déconseillée par les textes internationaux sur le patrimoine.
Mais on n'a pas d'image, on n'a rien sur cette flèche ?
Non, on n'a surtout pas de documentation. Voyez-vous, il faut être sûr, quand on restitue un élément disparu depuis très longtemps, ce qui est le cas de la flèche d'origine, enfin qui n'est pas forcément d'origine d'ailleurs, mais qui était là, disons, à la fin du XVIIIe siècle, pour restituer un tel élément, il faut avoir tous les éléments pertinents, la dimension, la façon dont c'était fait, enfin des dessins précis, etc. On n'a rien de tout ça sur cette flèche, à la différence justement de la flèche du Viollet-le-Duc. Et encore une fois, en plus, le principe absolu des chartes sur le patrimoine, c'est on ne dérestaure jamais un monument historique. Donc ce serait une dérestauration, c'est-à-dire ce serait renoncer à l'état qu'a connu la cathédrale pendant plus d'un siècle et qui est celui, encore une fois, qui a été protégé, qui est connu de tous. Donc ce serait vraiment, alors là pour le coup, totalement contraire au principe même observé par tous les États qui ont signé la Charte de Venise.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est un soulagement pour Emmanuel Macron. Le Parlement européen a validé aujourd'hui la candidature de Thierry Breton à la Commission européenne. Après l'échec de Sylvie Goulard, un deuxième revers aurait été particulièrement douloureux pour le chef de l'État. Mais cette fois, les eurodéputés n'ont pas retenu les soupçons de conflit d'intérêts qui pesaient sur Thierry Breton. Angélique Boin a suivi l'audition de l'ancien ministre de Jacques Chirac devant le Parlement européen à Bruxelles.
Quelques phrases en anglais puis en allemand avant de repasser au français. Thierry Breton rappelle d'abord sa passion viscérale pour l'Europe et ses multiples casquettes professionnelles. « Je suis le regrand-père de 2 petits-fils qui vivent à Berlin », ajoute-t-il à son CV. Une opération séduction qui tombe à plat tant l'ex-capitaine d'industrie apparaît tout d'abord tendu. Puis très vite, l'ex-ministre de Jacques Chirac aborde le sujet qui fâche. Ex-PDG d'un groupe qui travaille avec les institutions européennes, comment évitera-t-il tout conflit d'intérêts ?
Sur ce point précis, je n'irai pas par 4 chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical. Je me comporterai sur ce sujet exactement avec la même rigueur et intransigeance, la même indépendance que lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances en France en provenance du secteur privé. Je vous le dis haut et fort, je n'aurai qu'une seule boussole, l'intérêt général européen.
Je me récuserai automatiquement sur les sujets financiers en lien avec mon ancienne entreprise, ajoute Thierry Breton. Mais vu le nombre de dossiers concernés, serez-vous un commissaire fictif, lance Manuel Bompard, élu de la France Insoumise. Thierry Breton, bousculé donc, mais qui retrouve tout son aplomb au fil de l'audition. Il a du talent et sur le fond des dossiers, il a assuré, confie plusieurs élus.
Angélique Bouin depuis Bruxelles. Éric Ciotti renonce à la mairie de Nice. En mars prochain, le député Les Républicains n'affrontera pas son camarade de parti, le maire sortant Christian Estrosi, réputé bienveillant avec Emmanuel Macron. Éric Ciotti, lui, incarne une ligne plus à droite chez Les Républicains. Mais les derniers sondages pour les municipales à Nice donnaient une très large avance à Christian Estrosi. Un mot du temps demain, très perturbé sur un grand quart sud-est, des chutes de neige inhabituelles pour la saison toucheront plusieurs départements Rhône-Alpin. 9 de ces départements seront en vigilance orange, neige et verglas. Ailleurs, un ciel souvent gris et pluvieux. Température minimale hivernale de moins 1 à 3 degrés dans les terres, de 4 à 8 degrés vers les côtes. Les maximales seront comprises entre 3 et 17 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.